Après la nuit noire, c'est le premier chant qu'on a chanté. Je ne sais pas si vous êtes dans la lumière aujourd'hui, maintenant, mais après la nuit noire, pour moi, ça montre que ce n'est pas tout facile. Hein? Une nuit, ce n'est déjà pas facile, mais une nuit noire, c'est qu'on ne voit pas grand-chose. Puis je veux honorer ce matin tous ceux qui ont fait le pas de foi de venir. Tous ceux qui ont dit, ben oui, je sors de mon lit, je sors de ma noirceur, je sors, ben j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de frères et sœurs. C'est vrai que l'Église, c'est ça, ça sert à ça, entre autres. C'est la rencontre horizontale, mais c'est aussi permettre à Dieu de nous rencontrer. Alors, je veux honorer ceux qui m'ont dit ce matin, ben, je suis en train d'arrêter la cigarette, c'est dur, c'est difficile, priez pour moi. Alors, cette semaine, il y a plusieurs qui ont fait des choix de vie au milieu de nous, qui disent, ben, c'est beau, parce que Dieu veut transformer. Hein. Je veux dire merci aussi pour toutes vos prières que vous avez faites pour mon garçon allemand, pour notre famille, dans ce temps difficile qu'on a vécu. Tout n'est pas terminé, mais on sait que Dieu est bon. On sait que Dieu est lumière. On sait que Dieu est extraordinaire. Il me dérange ce micro, je dois le prendre dans la main. Excusez-moi. Donc, après la nuit noire, c'est un petit peu ce que je vais raconter ce matin. Je trouve intéressant. On commence une nouvelle série qui s'intitule « Les témoins de Noël ». Parce que donc, ces quatre prochains dimanches, on va regarder ensemble différents personnages qui ont été témoins de la naissance de Jésus. Des personnes de différentes classes sociales. On vous parlera même des anges à un moment donné. Mais des personnes surtout créées à l'image de Dieu, des personnes comme vous et moi en attente de réponse. Surtout des personnes qui ont été transformées par une rencontre avec Jésus et cette rencontre a changé leur vie. On sait, comme Ben l'a dit, on commence l'Avent aujourd'hui, une série qui nous prépare à Noël. Puis moi, j'aime bien quand j'ouvre ma Bible dans le temps de Noël, j'arrive sur Bethléem. Puis ce matin, je me suis posé la question, mais en fait, c'était quoi la situation à Bethléem? C'était quoi la situation des Israélites au niveau politique, au niveau social, au niveau spirituel, même au niveau physique, social? Est-ce qu'il y avait parmi la population un éveil spirituel? Est-ce que les gens étaient en attente de quelque chose de nouveau? À Bethléem, vous le savez, ceux qui connaissent leur Bible, c'était tout sauf facile. Ce n'était pas tranquille. Les Israélites vivaient une crise politique. Ils ont été envahis par les Romains. Donc les Israélites ne se sentaient plus chez eux. Et qui dit envahi, ben, on a besoin de paix. L'envahisseur, il n'apporte pas souvent la paix. J'arrive, je viens vous sauver. C'est plutôt, je viens en guerre contre vous. Puis des fois, l'envahisseur, il impose un couvre-feu. Ce qu'il fait surtout, c'est qu'il contrôle les personnes, la circulation des personnes. Je pense qu'à Bethléem, comme un peu actuellement, il y avait une instabilité des marchés. Les prix ont sûrement dû exploser. La liberté d'expression a sûrement diminué. Et pour les Israélites, c'était un stress permanent. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est ce qu'ils vivaient à Bethléem. Puis comme si toutes ces impositions ne suffisaient pas, l'empereur César Auguste a instauré un recensement. Il leur donne un recensement. Et je me suis posé la question, mais c'est quoi l'utilité d'un recensement? Il y a deux utilités. La deuxième, je ne l'avais pas comprise, mais la première, on le sait tous, c'est que l'envahisseur veut savoir combien de personnes, combien de matériel il a sous sa disposition. Et je suis arrivé, je suis venu, j'ai vaincu, maintenant je veux savoir qui c'est que j'ai sous la main. Ça, c'est le premier but du recensement. Mais le deuxième but, c'était j'exige, parce que je suis votre chef maintenant, un serment de fidélité. Je vous demande maintenant de me croire. Je vous demande maintenant de vous soumettre, en fait. J'ai découvert que Flavius Joseph, qui est un juif historien du 1er siècle, il a raconté qu'à la suite de ce recensement, César Auguste a fait tuer 6000 pharisiens, donc des juifs, qui avaient refusé de prêter serment à l'empereur. Donc c'était sérieux ce recensement. Alors dans ma tête, quand on ouvre la Bible, quand on voit que Joseph et Marie ont dû marcher pour aller se faire recenser, dans ma tête je vois une foule de gens obligés de se déplacer pour se faire recenser. Ce n'était pas un pèlerinage de marche de Compostelle où on s'arrête, on prie, on réfléchit. C'était une marche qu'il n'avait pas voulu. Et puis quand on arrivait à Bethléem, ben vous savez que les hôtels étaient pleins. Et puis quand on est obligé, quand on est fatigué, pardon, après une longue marche ou un long voyage, et qu'on n'a pas lieu pour dormir parce que l'hôtel était plein, parce qu'on a oublié de réserver, parce que toutes sortes d'histoires, ben peu de personnes sont capables de maîtriser leurs émotions. On est plutôt fâché, énervé de voir tout ce monde. J'avais réservé, c'est pourquoi ce n'est pas disponible, etc. Puis les parents de Jésus sont là-dedans. Ils n'ont pas eu 9 mois, pour moi, de tranquillité pour se préparer à vivre leur première naissance. Beaucoup d'incertitudes, des déplacements, probablement de la peur, et puis peut-être même des questions sans réponse. Une partie des gens sont comme ça, dominés, crise politique. Il y a une autre partie, quelques-uns, des mages. Les mages, ce sont des savants capables de lire dans le ciel. Ce sont des astrologues. Ils ont vu dans le ciel un signe. Il y a un signe d'une nouvelle royauté qui arrive. Eux, ils se déplacent volontairement. Ils ne sont pas soumis, ils marchent. Ils sont convaincus que l'étoile qu'ils suivent va les conduire vers le roi de l'univers. Donc, au plan scientifique, il y a une bonne nouvelle. Mais je pense que peu de gens le savaient. Eux, ils étaient convaincus. Certains Israélites, qu'on le verra les prochains dimanches, vont à la synagogue régulièrement, prient, vivent une vie normale. Ils sont dans l'attente, parce qu'entre la fin de l'Ancien Testament et l'arrivée de Jésus, eux ne le savaient encore pas à ce moment-là, l'histoire nous parle, c'est 400 ans. 400 ans de silence. C'est comme si Dieu s'était tu pendant 400 ans. Puis se taire pendant 400 ans, c'est long. Donc le silence, ça interpelle. Le silence, ça fait réfléchir. Alors certains Israélites sont en attente de réponse. Et je crois aussi que notre société est en attente de réponse. Qu'est-ce qui se passe? On a vécu le Covid, on entend parler de guerre, mais qu'est-ce qui va encore nous arriver? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de nous? Puis je réfléchissais à toutes les lumières qu'on commence à voir, puis en parenthèse, bravo à toute l'équipe qui a organisé ces décorations. C'est magnifique. Bravo. Je réfléchissais à toutes ces lumières qu'on installe dans nos maisons, nos sapins. Pour moi, ce n'est pas juste une décoration. Je veux dire que la plupart des gens mettent des lumières parce qu'ils ont un besoin intérieur profond de faire reculer la nuit. Il y a quelque chose qui est plus grand que ce que je vis. Un de mes voisins, c'est un acteur de cinéma assez connu au Québec, qui se trouve dans quelques films. Puis l'année passée, il avait mis le Père Noël comme décoration. Puis je suis allé vers lui. Alors Martin, t'as mis le Père Noël? Un petit peu vexé, puis il me dit, non, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est j'attends quelque chose de plus grand à Noël. Ah? Puis cette année, je l'ai vu, il a mis une crèche de Noël. Puis je suis allé vers lui, mais Martin, t'as changé de décoration? Il dit, oui, parce que cette année, j'attends un cadeau. J'attends Jésus. Je dis, OK. Alors, le message ce matin s'intitule, mon titre, c'est « Rencontrer pour raconter ». Recevoir une visite d'en haut, dans notre nuit noire, pour pouvoir raconter l'espoir. Toucher pour témoigner. Ce matin, je vais vous parler de personnes déconnectées de la vie sociale, de la vie religieuse. Des personnes qui vivent en dehors de la ville. Des personnes qui effectuent un travail difficile, souvent ingrat. Des personnes que Dieu a visitées pendant une nuit. Des personnes que Dieu a choisies pour être les premiers témoins de Noël. Vous avez compris, on va parler des bergers. Ceux qui ont des poules à la maison. Ramasser les œufs une fois par jour, nettoyer un petit peu la cage des poules, ça occupe. Mais s'occuper des moutons, c'est autre chose que des poules. Hein? Donc on va regarder ensemble Luc 2. Je vais vous lire les versets Luc 2, de 8 à 20. Vous pouvez suivre avec moi. Il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. La journée aussi, mais la nuit aussi. Un ange du Seigneur se présente devant eux. La gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit, n'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, il y a, avec l'ange, une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Sur la terre, paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, « Allons jusqu'à Bethléem, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Et tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé et elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Être berger, c'est probablement accepter de ne pas avoir de promotion salariale. Être berger, c'est 24 heures sur 24. C'est vivre avec les moutons, et j'ai envie de dire, c'est sentir le mouton. C'est prendre soin des animaux, donc c'est prendre la route pour leur chercher de la nourriture. C'est avoir un œil attentif aux besoins de chaque mouton. C'est les défendre contre les prédateurs. C'est veiller constamment. Passer des semaines avec leurs moutons. Dormir à la belle étoile, souvent dans le vent et la pluie. Je demande si ces bergers qui ont été visités, s'ils étaient désespérés. Parce qu'il me semble que leur vie n'a pas vraiment de but autre que de garder les moutons. Si j'étais un berger, je me dirais, mais rien de ma vie ne va changer. Je suis berger, je vais rester berger, je vais m'occuper des moutons. Peut-être même que je vais apprendre à parler mouton. Puis vivre avec la bave des moutons, la vie peut devenir sans intérêt. C'est sale, c'est repoussant par moments, même si c'est joli un petit agneau. C'est cute, mais 24 heures sur 24, pas tout facile. La vie de ces bergers les tenait éloignés de leur famille, pour ceux qui avaient des familles. Et j'aime bien parce que ça commence dans Luc 2, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs. Pendant la nuit, ils gardent leurs moutons. C'est la nuit. C'est la nuit. Peut-être que c'est aussi la nuit pour leur vie. Et dans les nuits, ici au Québec comme en Israël, il y a aussi la lune. Et de temps en temps, peut-être cette lune, elle éclairait. Peut-être la nuit, ils étaient contents d'avoir un peu de lumière, en plus de leur feu, parce qu'ils pouvaient voir peut-être leurs moutons. Mais peut-être la lune pour eux, c'était qu'ils espéraient que leurs moutons, leurs agneaux, soient achetés par les sacrificateurs dans le temple pour les sacrifices. Ils avaient un espoir, un petit quelque chose qui pourrait leur apporter. La nuit, c'est quoi pour nous? La nuit, c'est peut-être une maladie qui ne guérit pas. La nuit, c'est peut-être une rupture dans une relation. Un rêve qui est devenu un cauchemar. Une conséquence à la suite de mauvais choix. Un stress permanent. Une peur de déplaire, etc., etc. La nuit. Ils sont dans cet état. Ils gardent leurs moutons. Il fait nuit. L'avantage de la nuit, un avantage, on pourrait dire comme ça, au premier degré, ça permet aux défauts, aux blessures, de rester cachées. Mais on sait tous ici que rester isolé ne guérit pas. La nuit, c'est la nuit pour les bergers. Et voilà que dans cette nuit-là, une nuit comme une autre nuit. De manière inattendue, le ciel s'ouvre au-dessus des bergers, au-dessus de la nuit des bergers. La nuit, la lumière jaillit, il y a une chorale qui descend avec Dieu. Je veux dire, Dieu descend avec la chorale du ciel pour aller à la rencontre des bergers. Des hommes solitaires qui deviennent le public choisi. Ça, ça montre l'amour de Dieu. Des fois, on est seul, des fois, on ne comprend pas. On est dans le noir, c'est dur. Ben, Dieu, justement, se manifeste. Il y a dans le ciel une chorale qui se met à chanter. Dieu aurait pu choisir un éclair, un tonnerre pour se faire connaître. Mais il a choisi une chorale d'anges qui remplit le ciel de lumière. La lumière, donc, je l'ai dit, elle met à jour ce qui est caché par la nuit. Et cette lumière, elle effraie les bergers. Je les comprends. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais peut-être, puis peut-être, que cette lumière, elle met à jour leur situation. Et ça, cela ne les arrange pas. Qui suis-je? Il y a un autre passage dans la Bible qui nous dit que quand la gloire de l'Éternel est apparue devant le prophète Ésaïe, il a eu le même réflexe que les bergers. Malheur à moi, je suis perdu. Personne ne peut se tenir debout devant la sainteté de Dieu. Mais Dieu se retient dans cette nuit-là. Il se retient quand il se présente. Il ne veut pas détruire ce qu'il a créé avec amour. La Bible nous dit qu'il révèle sa gloire aux bergers en les enveloppant de lumière. Ça me touche tellement que la lumière de Dieu, elle ne frappe pas directement. La lumière de Dieu enveloppe les bergers, enveloppe la peur des bergers. Ça me parle tellement de la délicatesse de Dieu. Dieu qui connaît tout, qui sait tout, qui voit tout, enveloppe la fragilité, notre fragilité. Dieu ne craint pas alors de se salir. Dieu ne craint pas de sentir l'homme quand il vient vers nous. Dieu part à la rencontre de la fragilité. Dieu part à la rencontre de l'être humain. Et vous savez tous que quand il fait jour, quand la lumière brille, c'est impossible de se cacher. Mais cette lumière-là, pour moi, elle est un synonyme d'alliance. Elle me rappelle le but de la venue de Jésus sur terre. Jésus, qui est la lumière, il est venu apporter le pardon, la liberté, le salut, une nouvelle chance. Jésus dit qu'il est la lumière du monde. Donc cette lumière dans la nuit des bergers, pour moi, représente le cœur de Dieu. Elle vient mettre au travers de cette enveloppe, je dirais, un cadre sécuritaire. Elle permet le rétablissement. Elle offre la guérison. Cette enveloppe, j'ai envie de dire, je le dis comme ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle représente la croix de Jésus. Parce qu'entre Dieu et les hommes, il a fallu Jésus qui se manifeste. Dieu nous montre dans cette nuit-là un exemple qu'on peut suivre. Il fait chanter sa plus belle des chorales à des bergers qui n'étaient pas aimés, qui étaient rejetés. Vous savez, quand j'ai commencé à venir dans cette église il y a plusieurs années, j'ai été très touché par deux choses. L'accueil, se sentir important, se sentir accueilli avec toute ma famille, le petit Suisse qui arrive avec son accent bizarre, mais surtout par l'excellence des personnes impliquées, toujours qui montraient le meilleur. Comment est-ce qu'on peut faire? Puis un jour, Lise, elle a organisé un repas pour les démunis, ici dans cette église. Alors je suis venu aider avec joie à préparer la salle. Mais ce qui m'a touché, c'est que Lise m'a dit, non, Laurent, pas de vaisselle en plastique. On met de la vraie vaisselle. Organiser un repas pour les démunis avec la vraie vaisselle, des vraies décorations. Parce que Lise m'a simplement dit, Laurent, chaque visiteur qui va venir ici, c'est un VIP, une very important person. Vous savez, c'est tellement facile de se faire une opinion sur une personne. de la juger sans connaître toute son histoire. Cette enveloppe, pour moi, cette enveloppe de lumière, c'est marcher dans l'esprit opposé. C'est se montrer présent, disponible. C'est donner du temps. C'est aussi accepter de ne pas tout de suite ouvrir l'enveloppe qui protège les blessures de notre prochain. Il faut du courage des fois de se rassembler ici le dimanche matin. Ça ne m'est pas acquis pour tout le monde de se lever. Youpi, je vais à l'église. J'ai envie de venir, mais si la personne à côté de moi savait mon histoire, ça prend du temps. Mais c'est la lumière de Dieu, c'est notre amour qui expose, qui permet la guérison. Et autour de nous, il y a des gens qui ont froid à l'intérieur, qui ont été brisés dans leur relation. Ils attendent la chorale des anges, ils attendent notre témoignage. Dieu est venu toucher la terre, il est entré en contact avec les humains. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que l'annonce n'a pas été faite au palais de César à Rome. Elle n'a pas été faite dans le temple, là où se trouvent les Juifs qui vont adorer. Le premier cri de Jésus sur la terre manifeste pour moi l'arrivée de Dieu sur terre. Quand Marie a entendu son petit Jésus crier, pleurer pour la première fois, elle dit « ça y est, c'est parti ». Quand le chant des anges est venu annoncer aux bergers, ils ont annoncé quoi ? Il y a une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Ce chant que je vous dis là, un jour ça va retentir aussi dans le ciel quand il va revenir. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'ai lu un commentaire que dans la tradition juive, ce n'était pas permis aux juifs d'être des témoins oculaires dans une cour de justice. On ne croyait pas ce qu'ils racontaient. On ne croyait pas ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils ont vu. Ils étaient montrés du doigt. Ils n'étaient pas écoutés. Et Dieu dans le ciel a dit un jour, ça suffit. Stop. Cette nuit, je n'ai marre qu'elle soit une nuit noire. J'arrive avec ma lumière. Des bergers qui avaient été mis en boîte, catalogués, jugés, méprisés, ont été transformés. Dieu a fait chanter le plus beau de ses chants par la plus grande des chorales du ciel pour annoncer la naissance de son fils. Puis une fois que le chant a été terminé, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les Juifs sont allés prendre leur douche? Est-ce que les Juifs se sont dit « Ok, il faut qu'on fasse un petit peu plus beau là ». Peut-être, si eux, ils ont eu peur, j'imagine pas la réaction des moutons, ils ont dû tous être dispersés avec cette lumière. Les bergers n'ont pas pris de douche. Ils sont juste dit entre nous, mais restons pas là. Allons voir à Bethléem ce qui s'est passé. Alors, j'aimerais dire, peu importe où vous en êtes de votre vie aujourd'hui, Dieu veut vous rencontrer là où vous êtes. Ce n'est pas nécessaire d'abord de faire le grand ménage dans votre vie avant de pouvoir vous connecter avec Dieu. Je vous annonce une bonne nouvelle. Un sauveur vous est né. C'est pour vous, c'est pour chacun ici. C'est pour chacun dire, ben moi je n'ai marre de ma nuit noire, je suis tout seul, je suis isolé, j'ai besoin de cette lumière-là. Les bergers partent, arrivent à Bethléem, adorent Jésus, commencent à raconter ce qu'ils ont vécu. Tout le monde est dans l'étonnement. Ils repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Ils ont été rencontrés dans leur nuit noire et maintenant ils racontent. J'aime bien, la Bible nous dit aussi que les derniers seront les premiers. La Bible nous parle encore d'autres bergers que des anges ont rencontrés pour en faire des exemples de vie transformée. Je n'ai choisi encore juste un qui démontre cet amour fou de Dieu. Connais bien son histoire. Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Jacob, c'est un des trois patriarches d'Israël. Pendant des années, il est allé vivre loin de sa famille à cause de ses mauvaises actions. Il a dû fuir. Il a fait mauvais coup sur mauvais coup. Il a dû partir. Puis, les années loin de sa famille, il a travaillé comme berger. La Bible nous dit qu'il est devenu riche, qu'il possède même un immense troupeau. mais sa richesse n'a pas comblé son vide intérieur. Peut-être qu'il se décide de retourner dans son pays d'origine. Il se rappelle aussi les promesses que son père, son grand-père avait transmises, mais Dieu va se passer par nous pour être une bénédiction. Il y a ça au fond de lui qui devait être là, mais il y avait peut-être aussi au fond de lui, Jacob ne veut pas mourir avec le poids de sa faute. J'ai trahi mon frère, j'ai fait du mal à ma famille. Avant de mourir, j'aimerais pouvoir me restaurer. J'aimerais pouvoir me réconcilier. Donc il s'est mis en route pour aller se réconcilier. Il veut demander pardon. Et en chemin, alors qu'il tremble, que la Bible nous le dit, qu'il a mis une distance entre lui et les gardiens, c'est impressionnant de voir tout ce cortège, on voit qu'il est tout à la fin, il a vraiment peur, il veut montrer à son frère toute sa richesse, mais tout au fond de lui, il a tellement peur de le rencontrer. La Bible nous dit qu'il reçoit la visite d'un ange qui lui demande une chose. « Comment t'appelles-tu ?» Jacob signifie « trompeur ». Donc en disant son nom, Jacob dit à l'ange, ben oui, c'est moi, le trompeur. C'est moi, mon identité. Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, j'ai beau être enrichi, mais c'est basé sur quelque chose de pas correct. Alors pour une des rares fois dans sa vie, Jacob dit la vérité. Et j'aime beaucoup la réponse de l'ange. C'est rassurant. Il ne lui dit pas, c'est vrai, tu as trompé ton frère, tu ne mérites pas que je te donne une autre chance, honte à toi. Jacob avait assez de doigts sur lui qui l'accusaient, ses propres doigts, mais la longe, au contraire, ouvre une main pour lui. Au lieu de condamner, il le bénit, il lui donne un nom nouveau, Israël, qui signifie entre autres se tenir droit, être juste. Quel changement d'identité, hein, entre trompeur et se tenir droit. L'ange lui enlève sa honte et le restaure. Alors comme pour les bergers proches de Bethléem, comme pour Jacob, les anges viennent apporter le message de Dieu. L'ange, au travers de Dieu, vient casser les étiquettes qui collent sur la peau. Des fois, on voit des personnes qui boitent intérieurement. C'est comme un boulet du passé. Mais là, ce matin, j'ai l'impression que l'ange vient nous dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Dieu sait tout de nous. Il voit nos faiblesses, notre impatience, nos échecs, nos désirs qui se transforment parfois en addiction. Il voit la laideur, le désert de nos cœurs, nos mensonges pour obtenir la reconnaissance. Dieu n'est pas choqué. Il demande notre nom parce qu'il recherche notre honnêteté. La chorale des anges n'a pas transformé le cœur des bergers. Qu'est-ce qui a transformé le cœur de ces bergers? L'expérience qui a changé leur vie, c'est qu'ils sont décidés d'aller voir Jésus. Et quand ils sont retrouvés face à face devant Jésus, c'est là tout d'un coup qu'ils ont compris. C'est là tout d'un coup ils se sont dit « Ok, c'est bon ». Voir ce bébé dans la crèche a poussé leur cœur à adorer Dieu. C'est ce qui a permis le début du changement dans la vie de ces bergers. Ils ont écouté, ils sont déplacés, ils ont fait face à face à Jésus, puis ensuite ils ont commencé à raconter. Hier, j'ai passé ma journée avec les amis de l'Arche, parce que André, la première pensionnaire de l'Arche, est décédée l'année passée, le jour de Noël. Puis l'Arche, on n'avait jamais pu se retrouver avec les parents, grands-parents, amis, pensionnaires de l'Arche, ensemble, pour raconter un peu qu'est-ce qu'André, elle avait été pour nous. Puis André, elle ne parlait pas vraiment. Une des choses qu'elle disait toujours, c'est qui ta mère? Puis c'est quand ta naissance? Puis dans sa tête, elle avait tout l'agenda, elle savait exactement les dates de naissance, puis elle savait les arbres généalogiques, elle arrivait à les faire. C'était sa force. Mais souvent, André nous disait, mais à sa façon, arrête de cuisiner, arrête de courir, viens à côté de moi. Viens juste me dire que je suis important pour toi. C'était sa façon de nous parler, puis on s'est rappelé tout ça hier. Et puis les dernières semaines de sa vie n'ont pas été tout faciles. Elle était à l'hôpital, et puis il y avait Lisette, qui est sa proche aidante, qui a pu aller dans le COVID à l'hôpital, l'accompagner dans ses derniers jours. Puis André, une chose qui était solide en elle, c'est que tous les dimanches matins, il fallait aller à la messe. Puis elle allait. Puis les deux dernières années de sa vie, elle n'a plus la force d'aller. Donc elle reste à la maison. Et puis elle regardait la messe à la télévision. Puis le jour de Noël, Lisette était là, le dimanche matin. Je ne sais pas si c'est pas un dimanche matin, bref, le jour de Noël. Puis ensemble, elles ont regardé la messe. Puis tout à la fin, l'émission de télévision a juste mis l'image de Jésus entouré de Marie et de Joseph. Puis Lisette demande à André, mais André, tu ne crois pas que ce serait bien d'être, tu ne devrais pas être avec Jésus en ce moment, juste là, avec Marie et Joseph. Puis juste André a dit, oh oui. Puis 30 secondes après, elle est décédée. Dieu a vu le besoin d'André. Dieu connaît notre besoin. Dieu a besoin de nous pour raconter son histoire. Je vous cite Thérèse d'Avila. Vous avez compris que je suis plein d'émotions ce matin parce que ça me touche tellement ces histoires de berger que des gens oubliés, des gens qu'on met de côté, des gens qu'on ne veut pas voir, des gens qu'on a jugés sur une histoire, puis c'est plein de gens autour de nous qui sont comme ça, qu'on a mis en boîte ou qu'ils ont été mis en boîte pour toutes sortes de raisons. Puis on prend cette voix de la majorité qui écrase, puis la personne autour de nous se sent seule. Mais Thérèse d'Avila, elle dit, « Le Christ n'a pas de corps ici-bas si ce n'est le vôtre. Pas de main ni de pied sur terre si ce n'est les vôtres. Vous êtes les yeux avec lesquels il veille avec compassion sur ce monde. Vous êtes les pieds avec lesquels il marche pour faire du bien. Vous êtes les mains avec lesquelles il bénit le monde entier. » J'arrive au bout déjà ce matin. Mais j'aimerais vous dire que l'histoire de ces bergers, elle m'encourage. Je le suis, et je pense qu'on peut dire nous sommes imparfaits. Je suis imparfait, nous sommes imparfaits. Malgré nous, nous faisons partie du plan de Dieu. Dans un mois déjà, l'esprit de Noël sera remplacé par toute une sorte de réalité. Les factures seront toujours là. Peut-être les problèmes de santé seront encore là. Il y aura peut-être encore des mauvaises nouvelles qu'on entendra. Mais j'aimerais vous dire que l'histoire de Noël, les miracles de Noël, vient du fait qu'il s'agit d'un cadeau qui continue bien au-delà de la saison des fêtes. Dans un mois, les invités seront partis. Les décorations commenceront à être rangées. Le sapin de Noël peut être démonté, mais Jésus continuera. De sa naissance à son ascension, Jésus a changé la vie de tous ceux avec qui il a été en contact. Parce que son amour change tout ce qu'il touche, il a encore toujours un impact dans ce monde. Et transformé par son amour, fait de nous ses messagers, comme les bergers. La présence de Jésus a fait danser les bergers, a fait chanter les anges. On n'a pas des ailes comme les anges, mais nous pouvons être zélés. Nous pouvons être zélés avec sagesse autour de nous. Quelle est votre histoire? Notre prochain, votre prochain, a besoin d'entendre votre histoire d'amour. C'est ce que je veux vous partager ce matin. Amen. Je vais prier, puis on va prendre la Sainte Cène dans un petit moment. Ben, je vous invite juste à 30 secondes de silence. Dire Seigneur, dans ma nuit, est-ce que je t'entends? Je vais commencer à prier pour cela. Seigneur, merci parce que dans nos nuits noires, comme les bergers, tu veux faire chanter la chorale dans le ciel. On a chanté ce matin « Après une nuit noire, espère en l'Éternel ». On est ensemble ce matin pour te dire qu'on a besoin de toi. On a besoin que tu te révèles là où c'est douloureux, là où ça fait mal, là où on n'ose pas être à la lumière. Viens, Seigneur, viens et allume, réchauffe, descends à notre rencontre. Parce qu'on ne veut pas rester isolé, montré du doigt. On sait que tu as un Dieu d'espérance, on sait que tu as une autre histoire pour nous. Alors merci de transformer nos vies ce matin. Je prie vraiment pour tous ceux qui ont posé faire ce pas, de dire, ben, Seigneur, je m'ouvre à toi. Que ce matin, elles puissent faire cette prière, ben, Seigneur, j'accueille ta lumière. J'en ai marre d'être seul. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de comprendre que le cadeau de Noël, c'est toi. Puis dans un deuxième temps, ben, je vous invite à dire, Seigneur, ben, j'ai une histoire. Tu m'as rencontré. Vers qui est-ce que tu veux que j'aille ce mois de décembre? Vers qui est-ce que je peux partager l'histoire, ton histoire dans ma vie? Témoins de Noël, ces bergers, ils ont osé se déplacer, ils ont raconté. Quand on entend toujours cette histoire aujourd'hui. Vous savez, un jour dans le ciel, on sera peut-être étonné de voir telle personne, telle personne, telle personne, parce que cette personne nous dira, ben, parce que tu as osé dire ça un jour, ça m'a fait réfléchir. Parce que tu as osé prier pour moi alors que je ne croyais pas. Parce que tu as osé venir m'apporter un cadeau ou tu m'as téléphoné. Et ça m'a fait juste ce jour-là, ça m'a fait du bien. Alors Seigneur, merci parce que tu n'es pas un Dieu qui nous culpabilise, tu n'es pas un Dieu qui nous juge, mais tu es un Dieu qui transforme et qui fait de nous des témoins. Seigneur, je te prie que ce mois de décembre, on soit un peu fou comme les mages qui regardent le ciel, qui avancent alors que tout est incertain, qui sont convaincus qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Donne-nous cette audace-là d'avancer, les yeux fixés sur toi et persuadé que ce qu'on voit, ce n'est pas la fin. Merci pour nos amis qui ont besoin de toi. Alors donne-nous le courage de les aimer, de les inviter, de leur téléphoner, de passer un peu de temps avec eux pour que leur nuit cesse, parce qu'un jour, tu es venu faire la lumière dans nos vies. Alors donne-nous de savoir témoigner tout simplement, parce que ces bergers qui n'avaient pas beaucoup d'instructions, ils ont raconté. Donne-nous d'être des raconteurs d'histoire. Au nom de Jésus.